Bonsoir les amis, vous écoutez le coup de cœur du libraire et je suis aujourd'hui avec Annabelle.
Bonjour.
Annabelle, bonjour. Annabelle, quel est votre coup de cœur ?
Alors pour cette rentrée littéraire, il y en a quand même eu plusieurs, donc c'était pas facile de choisir, mais il y en a un qui m'avait bouleversée pendant l'été quand je suis tombée sur les épreuves. C'est un premier livre autour d'une autrice qu'on ne connaît pas, mais c'est ça que je vais raconter autour de cette écrivaine. Donc ça s'appelle « Flamme, volcan, tempête ». Je reviendrai sur ce titre que je trouve magnifique. Et le sous-titre, c'est « Un portrait de Christine Pawlowska ». Et c'est de Pierre Boisson, c'est aux éditions du Sous-sol, qui est une petite maison d'édition indépendante formidable, pour laquelle nous sommes toujours très sensibles à leurs ouvrages, aux sorties. C'est toujours des petites pépites, des petits livres un peu de pas de côté. Et donc j'ai choisi ce livre-là, qui n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné d'un autre plus petit livre, qui s'appelle Écarlate, toujours aux éditions du Sous-sol, qui est en format poche, de Christine Pawlowska. Donc je vous raconterai cette aventure éditoriale, qui est aussi une aventure avant tout littéraire, et pour nous, une merveilleuse aventure de libraire et de lecteur.
Donc deux livres.
Complètement.
Deux livres. Et alors, on les lit comment ? L'un après l'autre ?
Normalement, donc, le procédé, quand on va rentrer dans le texte de Flamme, Volcan, Tempête, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui va mener cette enquête, donc, qui est l'auteur Pierre Boisson, lui, il a d'abord lu le petit livre qui accompagne notre émission qui s'appelle Écarlate. Mais nous, on va faire le contraire.
Oui.
On va faire le contraire parce que, pour que ce livre-là, Écarlate, si vous avez envie de le lire, ce soit une sorte d'écrin pour comprendre comment ce livre aujourd'hui, il est précieux parce qu'il est en librairie, mais surtout pour savoir comment un livre peut à un moment donné disparaître et réapparaître.
D'accord. Donc là, c'est...
Un suspense.
Un suspense. Et une enquête, mais c'est une enquête.
C'est avant tout une enquête, oui. Comme quoi l'aventure éditoriale et littéraire, c'est souvent une affaire de détective.
Mmh.
Donc, il y avait un texte très beau d'un auteur d'origine chilienne qui est décédé, mais que j'aime beaucoup et qu'on affectionne énormément ici à la librairie, qui s'appelait, parce que moi je dis toujours « ils s'appellent » comme s'ils étaient toujours vivants, parce qu'ils le sont pour nous.
Mais les morts qu'on aime sont toujours présents.
Tout à fait. Qui s'appelait donc Roberto Bolaño, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Les détectives sauvages ».
Mmh.
Et les détectives sauvages sont des poètes qui partent à la recherche... soit d'auteur, donc de poétesse ou de texte, entre autres. Et donc voilà, c'est un peu cette aventure-là qu'on va vivre. Pierre Boisson, mais je pense que je vais vous laisser le présenter, mais en tout cas, Pierre Boisson, lui, va faire une enquête et il va partir à la recherche d'une autrice qui s'appelle Christine Pawlowska, que nous ne connaissons pas, qu'il ne connaît pas. Et nous allons partir avec lui sur ses pas, petit à petit, vous verrez, on ne va pas tout vous dévoiler pour que vous puissiez saisir... l'importance de ce travail.
Oui, Pierre Boisson, c'est un journaliste au départ qui écrit dans un magazine qui s'appelle Society, que je n'ai jamais lu, je ne sais pas en quoi ça consiste, et qui a écrit deux enquêtes. Voilà. Et là, c'est son troisième ouvrage.
En fait, on voit que Pierre Boisson, c'est quelqu'un qui sait mener des enquêtes. C'est hyper important parce que ça veut dire qu'il a un procédé. Celui de, d'abord, il est curieux, il veut savoir ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'il a un procédé de déplacement. Il va frapper à plusieurs portes, il va essayer de comprendre, faire des recherches. Et c'est intéressant parce que les deux, effectivement, les deux documents, enfin les deux textes, les deux livres qu'il avait fait précédemment, c'était des enquêtes sur des faits de société. Et là, d'un seul coup, c'est un texte littéraire. Donc, pour mieux saisir ce qu'on va dire et ce qu'on va raconter, je vais commencer par lire, parce que le texte parle de lui-même.
D'accord, allons-y.
C'est à l'été 2022, le 9 août très exactement, que j'ai ouvert pour la première fois « Écarlate » de Christine Pawlowska. Il se trouvait en arrière-plan d'une bibliothèque, invisible, dissimulée, et tout indiquait qu'il avait été oublié là depuis très longtemps. Son papier était jauni, sa couverture craquelée. Il avait l'air fragile. En haut de la première page était inscrit à l'encre bleue une date, novembre 1974, et un nom, Danny, qui n'était pas celui de la propriétaire de la maison. J'apprendrai plus tard que le livre lui avait été prêté à l'époque par une amie comédienne. Elle ne l'avait jamais rendu et personne ne l'avait lu depuis. Ce petit ouvrage de 115 pages, broché, cousu, m'a frappé par sa sobriété. Sur la couverture crème, le titre était imprimé en rouge, encadré par le nom de l'autrice en haut et celui de la maison d'édition, le Mercure de France, en bas. La quatrième de couverture, elle, était vierge de tout texte, comme s'il n'y avait rien à en dire, ou seulement, ouvrez ce livre, lisez-le. Quand nous, libraires, on commence à lire des épreuves comme ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui nous interpelle dans tout ce qu'on reçoit ? Parce que pour la rentrée littéraire, on a des tonnes et des tonnes de livres qu'on reçoit en épreuve comme ça. Et qu'est-ce qui fait que quand on ouvre un livre, une première page, on est saisi par ça ? D'abord, il y a plein de choses. Déjà dans ce petit début de ce livre-là, c'est que nous, on est toujours sensible quand on va quelque part, où qu'on va, c'est effectivement la première chose qu'on cherche quand on est invité ou quand on va dans un lieu, c'est la bibliothèque. Mmh. Et on a un goût pour les livres jaunis. On en a aussi pas mal à la librairie. Le livre jauni, c'est particulier pour nous. C'est un livre qui est oublié, en tout cas qui a été oublié dans des entrepôts. Et quand nous, on le commande et qu'on le fait venir en librairie, il a été très peu lu et il est en train de vieillir. Et quelque part, si on n'en fait pas quelque chose, il se meurt. On en a quand même beaucoup qui commencent à jaunir parce que nous, on est très friands du fond. On aime les livres qui sont pas à la mode. Hein. Et ce pas à la mode, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les défendre et les porter tout le temps.
Ouais.
Donc là, nous, on était sensibles, puisque effectivement, donc Pierre Boisson nous dit, il est là, il est chez une amie, il regarde cette bibliothèque, il est interpellé par ce petit livre qui est tombé derrière. Nous aussi, ça nous arrive de regarder les petits livres qui tombent derrière. Mmh. Et de sa main, il va le chercher et il va nous dire comment il est. Donc ça, c'est important parce qu'il y a un geste. Hein, on est très sensible au geste de la main qui va chercher le livre dans une bibliothèque, à mesure que c'est notre travail quotidien. C'est-à-dire que nous, notre lien avec nos clients, c'est d'aller chercher des livres physiquement et de les prendre et de leur tendre. Mmh. Et donc lui, c'est ce qu'il va faire. En fait, Pierre Boisson va nous tendre un livre qui maintenant est sur nos tables, qui sera Écarlate de Christine Pawlowska. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'il va nous dire et ce qu'il va nous apprendre après par la suite, c'est qu'il va se mettre à le lire et il va le lire d'une traite et il va être complètement emporté. De quoi parle Écarlate ? On sait juste que c'est un journal d'adolescente et qu'elle a écrit entre ses 12-15 ans, mais on n'en sait pas beaucoup plus à ce moment-là. En tout cas, lui, il n'en sait pas grand-chose. Il est frappé par cette écriture. Il est frappé au cœur. Lui-même a une petite fille, sa petite fille qui tient dans ses bras, qui a 4 mois. Et peut-être que le fait d'être père, d'avoir en fait ce livre-là, de cette jeune fille qui, à un moment donné, perd ce cœur, en tout cas par ses écrits, il veut savoir qui elle est et il n'y a rien, aucune information. Donc, il est saisi par ce journal qui raconte les difficultés d'une adolescente avec sa mère. Mais comme tout journal adolescente, c'est-à-dire aussi ses amours, ses espoirs, elle est dans les excès, des nuits blanches où elle écrit, elle réfléchit, elle tente des choses, elle est en feu, elle est en flamme, c'est une tempête. Je reviendrai sur le titre bien après. Mais c'est l'écriture. C'est qu'est-ce qui fait qu'un journal d'adolescente est plus important et nous fera plus qu'un autre ? C'est cette façon de narrer. Et cette écriture qui nous touche au cœur, et c'est ce qui s'est produit pour Pierre Boisson. Mais vous allez voir, il n'est pas tout seul. Donc, il ouvre le livre. Donc ça, c'est Écarlate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je lis les épreuves, je n'ai pas Écarlate. Ce livre-là, l'éditeur ne nous l'a pas envoyé parce qu'il n'était pas prêt.
D'accord.
Donc il est encore en presse, on est au cœur de l'été. Moi, je suis là en train d'ouvrir ce livre. On me parle d'un texte que je n'ai pas entre les mains, que je ne connais pas. J'ai entre les mains une enquête qui va m'habiter, qui va m'emporter. Et c'est de ça, en fait, que j'avais envie de partager. Et c'est seulement après, quand on rentre de nos vacances, que la rentrée littéraire arrive au fur et à mesure, qu'à un moment donné, dans un des multiples cartons qu'on avait, se trouve Écarlate. Donc pendant un temps, pendant tout l'été, pendant des semaines, même pendant la rentrée littéraire à l'ouverture de la librairie, je ne sais rien d'Écarlate, à part que ce livre, j'ai une responsabilité, comme Pierre Boisson en a une, et qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse absolument découvrir.
Mmh.
Donc, comme beaucoup de lecteurs, donc nous aussi en tant que libraires, on ouvre un livre, quand on a écrit un texte, on essaye de chercher le moindre, donc la préface, les remerciements, le moindre indice, on le décortique. On décortique le bouquin pour savoir qu'est-ce qu'on a à ce moment-là comme indice. Et c'est ce que fait Pierre Boisson. Il nous dit « Le texte d'introduction, signé par Simone Gallimard, est imprimé sur les rabats d'écarlate, se concluait de la façon suivante. Christine Pawlowska a aujourd'hui 22 ans, elle continue d'écrire. » Alors lui, il se dit « Tiens,
ah.
Elle continue d'écrire, donc ça veut dire qu'il y a d'autres livres d'elle.
Ouais. »
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est à l'ère de la technologie, donc on n'a plus besoin de courir uniquement dans une bibliothèque ou dans une librairie pour demander au libraire des informations. On peut aussi enquêter de chez soi. Donc lui, il va sur Internet et il va essayer de voir ce qui existe et il tombe sur rien. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres livres. Et il se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Il dit qu'elle continue d'écrire, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Et donc, quand il va mener son enquête, il va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est comme lui, c'est-à-dire un autre lecteur, et c'est un homme aussi. C'est intéressant, parce que c'est quand même une histoire d'homme, de lecteur, et on le verra après pour les critiques. Ce sont des hommes qui sont saisis par ce journal de cette adolescente. Donc, il nous dit « Seul un utilisateur d'un site de critique littéraire, un certain Caravan, mentionnait son nom, s'interrogeant à voix haute sur sa disparition. Il s'en indignait à juste titre, car après tout ça, ne tenait pas. Son éditeur avait bien précisé qu'elle continuait à décrire. » Alors là, on voit bien qu'il y a un grand point d'exclamation parce qu'il se dit « on nous ment, quoi, c'est pas possible, il y a quelque chose. »
Il y a un truc.
Il y a un truc qui va pas. Mmh. Donc il nous parle de ce Caravan qui, il nous dit, lui envisageait quatre solutions. Soit c'était un canular éditorial de plus, soit l'écrivaine avait été déçue de la réception de ce premier livre, soit elle était devenue la grande personne qu'elle craignait tant de devenir, ou bien encore, elle avait changé de nom, abandonné l'écriture. Et donc, il dit, cet internaute met en fait un petit mot sur son site. Il dit, si vous trouvez des nouvelles de Miss Pawlowska, supplia-t-il enfin, merci de me prévenir. Une disparition n'est pas un vide, nous dit Pierre Boisson. Elle laisse toujours des traces. Les premières se trouvaient dans les archives de presse du mois de juin 1974, conservées à la Bibliothèque nationale de France. Donc le voilà, donc ça c'est aussi qui est intéressant. Il mène son enquête, il sort de chez lui et il va se déplacer. Et là il tombe. Contrairement à ce que son héritage pouvait laisser penser, on pourrait croire comme elle a disparu et qu'il n'y a plus rien d'autre, qu'en fait le livre est passé inaperçu, qu'il n'a pas trouvé son public et comme beaucoup de livres malheureusement disparaissent. Et il nous dit, mais loin de là, c'était pas du tout le cas.
Ah oui.
La première trace était un article de Claude Mauriac qui avait consacré une pleine page du Figaro littéraire à Écarlate. L'introduction de son papier était un adoubement, peut-être même une déclaration d'amour. Un chef-d'œuvre du genre, quel genre le chef-d'œuvre, écrivait le grand critique, figure du nouveau roman, et évidemment c'est le fils de François Mauriac. Et un peu plus loin, vous avez d'autres qui continuent, et lui-même se demande en fait ce Claude Mauriac, si derrière cette écriture se cachait pas un auteur comme Cocteau, comme pour la corriger et reproduire en fait le succès de Raymond Radiguet, vous savez. Et donc il relit deux fois le livre, donc Claude Mauriac, pour se dire, mais est-ce que c'est pas un canular? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous tromper et qu'en fait c'est pas le journal d'une jeune fille mais d'un auteur confirmé, d'un écrivain confirmé qui a un petit excès d'excentricité et qui décide sous pseudo de nous envoyer
C'est l'époque où on faisait quand même pas mal de canulars de ce goût là
hein. Complètement. Ah oui, complètement. Donc il relit en fait deux fois le livre et il se rend compte que non, enfin il est toujours saisi au cœur, il dit c'est pas possible, en fait c'est vraiment cette jeune femme, elle a vraiment travaillé seule. Mais il se rend compte, et il le dit lui-même, qu'on se trouve d'ores et déjà face à une grande écrivaine. Donc voilà, il n'est pas tout seul, parce que quand on continue, on se rend compte que François Nourricier, c'est un critique, il a écrit aussi des livres, mais il avait une sale réputation, hein, parce qu'il avait la réputation, donc lui, il est à la NRF hein, à l'époque, donc qui est la grande revue de chez Gallimard. Et on l'appelle l'imminence grise, on dit qu'il a le pouvoir de détruire un prix littéraire, tellement sa critique est dure et difficile. Donc on sent quand un écrivain écrit un livre, l'importance en tout cas de la critique, d'autant plus à cette époque-là où ils n'étaient pas si nombreux que ça, et surtout ils étaient bien installés, et c'était des papes en fait, qui décidaient un peu
du sort de chacun.
Quoi. Donc c'était assez stressant. Et donc, lui, il écrivait au point, et en fin de compte, lui, il dit que Écarlate, c'est un livre extraordinaire, que c'est un grand livre, qu'il a été marqué, qu'il a été bouleversé. Il le compare à des livres comme, comme Sagan, comme Bonjour Tristesse, comme Patrick Modiano. Voilà, en mémoire les petits matins où il dit qu'il gardait par exemple gravé en mémoire les petits matins où il avait découvert Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et La Place de l'Étoile de Modiano. Et il dit que c'est à eux qu'il avait pensé en lisant Écarlate pour la première fois. Et ce n'était pas rien. Et puis, par la suite, on a aussi un autre journaliste, un journaliste du Monde. Et ce qui me fait vous signaler qu'il y a eu un article justement sur ce roman, sur Christine Pavlovska et notamment sur cette enquête de Pierre Boisson dans Le Monde. Et c'est celui de Marcel Arlan. Marcel Arlan, en 1974, fait un article pour Le Monde. Et il dit combien ce livre... Et incroyable, que c'est la saisie aussi complètement au cœur, et qu'il le compare. Donc il y a deux livres qui l'ont saisi au cœur pour cette rentrée 74 à l'époque. C'était Les Armoires Vides, qui était un premier roman également d'Annie Ernaux, et le premier roman qui est de Christine Pavlovska, qui s'appelle donc Écarlate. C'est incroyable le destin d'auteur, puisque Christine Pavlovska va disparaître de la scène littéraire, et Annie Ernaux, aujourd'hui, c'est notre prix Nobel de littérature. Ouais.
Et Boisson écrit son livre en 2022.
Bien sûr.
Au moment de la remise du Nobel à Annie Ernaux. Est-ce qu'on peut faire juste une petite pause?
Mais c'est super, oui.
Hein, un peu de musique. Eh bien voilà, après ce magnifique morceau de piano,
nous voilà de retour.
Nous voilà de retour. The comeback of Annabelle.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, oui. Donc, là où on s'était arrêté, donc Pierre Boisson tombe sur effectivement les critiques de l'époque, il se rend compte que les critiques étaient élogieuses, qu'on avait face à nous un écrivain, une écrivaine prometteuse, et d'un seul coup, bah, tout disparaît. On est en 1974, il n'y a pas de deuxième livre, lui il regarde sur Internet, il ne voit rien, le fameux internaute dont on parlait non plus.
Mais que se passe-t-il ?
Mais tout à fait. Et en fait, en 2014, il y avait une petite réédition, dans une toute petite maison d'édition, du bouquin d'Écarlate. De Pavlovska, donc c'est quand même incroyable. Et dans cette édition-là, qui n'est plus du tout disponible puisqu'elle est nulle part en librairie, ni en bibliothèque, l'éditeur s'appelait l'éditeur singulier, donc une toute petite maison confidentielle, dont le site en fait internet ne proposait plus l'ouvrage à la vente puisque voilà, il y avait rien. Et cette réédition, il y avait une petite préface qui était préfacée par un critique littéraire qui s'appelle Alexandre Filon. Qui livrait deux informations à Pierre Buisson quand il tombe dessus. Et lui, il est impressionné. Et on comprend, puisqu'il est dans la quête, il veut avoir le plus de renseignements possible. Et c'est très difficile d'en avoir. La première, c'est que Palomska n'était pas le vrai nom de Christine. Donc, je vous dirai après. Mmh. Et la seconde, c'est qu'elle était morte prématurément en 1996, à 44 ans. Et Alexandre Filon précisait seulement que sa vie avait été une course folle. Rien d'autre. Alors, le choc, là, il est énorme pour Pierre Buisson. Il dit donc... Cette écrivaine est décédée, donc en 96. Il n'y a pas de deuxième texte. D'elle, en tout cas, on n'en trouve pas. Palomska, ce n'est pas son nom, donc ça va être son nom de plume. Et donc, du coup, lui, il veut mener son enquête, savoir trouver des gens qui l'ont connue, sa famille, si elle, qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand Alexandre Filon dit « une course folle », et quand on voit la résonance du texte Écarlate, il veut... comprendre ce qui lui est arrivé, parce qu'effectivement, le livre Écarlate est une course folle.
Oui.
Donc, on continue, et alors il va continuer en tant qu'enquêteur à essayer de comprendre, et il va contacter Isabelle Gallimard. Alors, Isabelle Gallimard, c'est la fille de Simone Gallimard, qui avait donc le Mercure de France comme maison d'édition, qu'elle va donc léguer à sa fille Isabelle. Son frère, lui, a les éditions Gallimard.
Bah oui.
Okay. Et donc, oui, complètement. Et donc, Isabelle Gallimard, elle prend la suite de la maison.
Enfin, le Mercure, c'est pas non plus rien du
non,
tout.
Hein, non, pas hein, du tout. Bon. Donc, prend la suite de sa mère après le décès de sa mère en 95. Et elle n'avait pas connu Palomska parce que c'était sa mère qui avait découvert ce texte-là. C'est sa mère qui avait mené une correspondance incroyable avec Christine Pavlomska. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même pas courant que des éditeurs maintiennent une correspondance pendant 10 ans avec un auteur, surtout une jeune autrice comme Palomska, qui a à peine 22 ans, et parce qu'elle sent qu'effectivement elle-même a eu un choc éditorial, et elle comprend qu'elle a face à elle une écrivaine de haut vol, hein, et qu'elle veut l'aider et pas la laisser glisser, et... avoir absolument d'autres textes d'elle. C'est surtout ça. Et donc, elles correspondent ensemble pendant 10 ans, ce qui n'est pas rien. Donc, elle s'interroge. C'est touchant parce que Isabelle Gallimard, elle ne comprend pas trop la démarche de Pierre Boisson. Parce qu'elle dit, bon, enfin, des livres comme celui de Christine Pavlovska, il y en a plein dans les maisons d'édition qui ont été oubliés. Et il y en a plein dans les librairies qui s'oublient. Pourquoi celui-là ? Et lui, il lui dit que c'est un choc pour lui. Qu'il n'est pas le seul, qu'il y a un autre internaute aussi qui l'a lu, qui cherche aussi tous les exemplaires qu'il peut trouver dans toute la France. Il parcourt les marchés de puces, des livres d'occasion, tellement ce texte l'a rempli. Et puis quand on regarde les archives, ce qu'il va avoir lieu, enfin, pouvoir faire après, on se rend compte de la correspondance effectivement de Simone Gallimard et qu'elle aussi, elle a été touchée et bouleversée par cette autrice. Et donc, au départ, bon, elle ne comprend pas trop, mais elle lui dit « Ok, pas de problème ». Et ça va susciter la curiosité de quelqu'un qui s'appelle Romaric Vinet-Cameret, donc un troisième homme qui apparaît aussi là-dedans. en plus des critiques littéraires de l'époque qui étaient aussi des hommes, qui est chargé en fait de la communication au Mercure de France. Donc lui, il va saisir la requête de Pierre Boisson, il va aller chercher les archives et il va lui donner une grande pochette à Pierre Boisson pour qu'il découvre tout ce que le Mercure de France a gardé, stocké comme information de tous ses auteurs et donc notamment de Christine Pavlovska.
Alors là, trésor.
Alors complètement. Je n'ose imaginer le choc.
Damned.
Ouais, bah alors moi, quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me dire Donc voilà. Et donc, il ouvre la pochette. Et oui. Dans cette pochette, il y a plein de documents. Et voilà ce qu'il nous dit. Il y a une correspondance qui va donner donc pendant plus de 10 ans, effectivement, donc comme je disais, avec Simone Gallimard. Et on apprend. Le nom de Christine n'était pas Pavlovska, mais Kujawa. Elle était née le 1er janvier 1952 à Alès, où elle vivait toujours au moment de la publication d'Écarlate. Sa vie était compliquée. Elle avait un fils dont elle ne voulait pas qu'on parle et dont le père était en prison. Elle avait quitté le domicile de ses parents, mais ne disait pas pourquoi. Et s'était réfugiée d'abord dans un camping de Bagnoles, emplacement 16, puis à la campagne, à Anduze, où elle ne resterait sans doute pas longtemps. Le mari d'une amie venait de situer sous ses yeux d'une balle dans la tête. Elle envisageait de partir à l'étranger. Je comprenais ainsi, et aussi, que Simone Gallimard ne considérait pas Christine Pavlovska comme une écrivaine comme les autres. Elle l'appelait sa protégée, sa pépite, et lui intimait de continuer d'écrire. Elle attendait avec impatience son deuxième texte, sur lequel elle disait compter absolument pour le Mercure, et lui confessait ne pas avoir ressenti un tel mouvement du cœur et une telle confiance en l'avenir pour aucun auteur depuis 10 ans. C'est quand même incroyable. Wow. C'est quand même incroyable. Donc, dans ce dossier qu'on va trouver, il y a un deuxième roman qu'elle aura envoyé, mais elle le coécrit avec un certain Michel Bartaille. En fait, c'est une sorte de petite enquête. Mais ça ne plaît pas trop à Simone Gallimard. Elle veut vraiment un texte que d'elle, que de Christine Pavlovska, parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose. Et quand il continue à regarder Pierre Boisson, il nous dit, c'est dans ce dossier encore que j'ai vu pour la première fois une photo de Christine. Et vous verrez, dans le livre, il y a une photo.
Oui. Oh.
Non, mais c'est magnifique.
Oui, oui. D'ailleurs, petite réflexion, Annabelle, il y a quelque chose un petit peu de vous. Hein?
Non, mais pas du tout. Oui. Allez, super, mais pas du tout.
Cheveux courts, comme ça, visage fin.
Voilà, bon, et donc... on lui avait déstabilisé la main. Alors, c'est dans ce dossier encore qu'il nous dit qu'il a vu pour la première fois une photo de Christine que vous pouvez trouver à la page 26 et qu'on lui avait demandé de remettre pour mettre dans sa fiche parce que tous les auteurs ont une fiche chez les éditeurs et donc voilà, c'est pour avoir ce dossier. Et elle dit que cette photo datait de ses 16 ans, que Christine avait les cheveux courts, le teint pâle, un grain de beauté à gauche de la lèvre. Et pour lui, maintenant, elle a un visage. Après, par la suite, il a son but, le travail de Pierre Boisson, c'est d'aller contacter tous les gens qui l'ont connu. Ceux qui sont vivants, mais ça va être une sacrée quête, hein, parce que ça ne va pas être si évident que ça. Hein. Et donc, il tombe sur un certain Jean-Paul Gasque, hein, qui est apparemment un des amis de jeunesse de Christine, hein, qui avait aussi été l'espace de quelques mois son compagnon. Et dont Alexandre avait glissé le nom dans sa préface, Alexandre Filon. Donc ça, cette information, on l'a dans la deuxième réimpression du livre en 2014 par ce petit éditeur, l'éditeur Le Singulier, qui va disparaître très vite. Hein. Et donc ce Paul Gasque va lui donner rendez-vous sur le port de Douarnenez la veille de Noël. Et voilà ce que nous dit Pierre Boisson. Il est arrivé en retard et en tenue de travail. Il sortait tout juste de son atelier de sculpteur-mouleur. Jean-Paul était maintenant âgé, marchait lentement, en s'aidant d'une canne. Mais il a tenu à s'installer dehors, en plein vent, comme un vieux marin. Il venait de guérir d'un cancer agressif et quand il a commencé son récit, j'ai compris que ce n'était pas la peine de poser de questions. Ce n'était pas une discussion, c'était une confession. Pendant plusieurs heures, il m'a raconté à voix haute et en pesant chacun de ses mots, certaines choses qu'il n'avait jamais dites à personne, des choses invraisemblables qu'il avait décidé de ne pas emporter dans sa tombe. Il avait connu Christine entre ses 12 et ses 22 ans, c'est-à-dire qu'il avait connu la Christine d'Écarlate et celle qu'elle était devenue ensuite. Il m'a parlé de fugue, de génération perdue, de violence. Il avait déjà vu Christine une arme à la main. C'était la deuxième fille avec laquelle il avait couché et lorsqu'elle l'avait quitté, il avait tenté de se tuer. C'était une femme exceptionnelle, pareille à nul autre, m'a-t-il dit, en me raccompagnant le long du port. Mais être à ses côtés n'allait pas sans risque. J'ai mis longtemps à arrêter de souffrir. J'ai compris plus tard que Jean-Paul n'était pas un cas à part. Il m'avait donné quelques autres noms d'anciens camarades de Christine, de nouvelles pistes à suivre. Très peu avaient survécu, mais tous ceux qui avaient un jour croisé sa route, que ce soit son petit frère Jean-Michel, une complice ou un amoureux, tous étaient hantés par le fantôme de Christine, 30 ans après sa disparition. Ce qui était une bonne nouvelle pour moi, mais pas toujours pour eux. Je recherchais surtout deux femmes qui avaient été à deux moments différents les meilleures amies de Christine. Je m'arrête juste là 2 secondes,
oui.
Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on va, on devine à ce moment-là que ce journal écarlate qu'on n'a pas, quand je découvre le livre, c'est qu'on sent que c'est un texte qui doit effectivement être fulgurant pour pouvoir y mettre autant de passion et de violence qui touche, qui brûle encore en fait. On sent ce Jean-Paul hein, qui est complètement vieux monsieur, qui a connu Christine Pavlovska quand elle était toute jeune et qui est encore ce jeune homme au fond de lui de cette période-là.
Mmh.
Et donc là, ça m'interpelle, je me dis, mais il faut absolument qu'à la rentrée, je découvre Écarlate. Et on en lira peut-être un petit extrait plus tard. En tout cas, la voilà qui va essayer de contacter deux amis qui reviennent souvent dans le dossier et qui peut-être qui reviennent aussi dans le texte Écarlate que nous n'avons pas, mais que lui a. Donc les deux, c'est une certaine Mélie qui est découverte dans Écarlate. Qu'on comprend qu'en fait, c'est sa meilleure amie et c'est pas son vrai nom. Mélie, c'est le pseudo qu'elle lui donne dans ce bouquin où elle va raconter leur amitié. Et puis, il y a une collègue d'un centre de formation où Christine avait travaillé à la fin de sa vie hein, et dont ce Jean-Michel ne se souvenait que du nom de famille, hein, mais dont il était certain qu'elle savait sur Christine des choses que personne d'autre ne pouvait connaître. Et donc, ce que fait Pierre Boisson, c'est qu'il va se mettre désespérément à chercher. Et il appelle le centre de formation, il va chercher dans les annuaires du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse. Il laisse des tonnes de messages sans succès. Personne ne répond, le temps passe, les mois passent, rien. Et puis, de Mélie, donc ce pseudo qui revient dans Écarlate, donc la meilleure amie d'enfance, il sait juste que c'était qu'elle était fille de pharmacien et qu'elle a effectivement vécu à Alès, qu'elle est née en 51, donc un an avant Christine. Et puis, elle ne sait pas grand-chose parce qu'il a essayé de la joindre. Et puis, en fait, Marie-Hélène Lacroix, donc qui est son vrai nom, elle a été accueillante. Elle avait seulement 10 ans de moins et n'avait jamais eu d'amis prénommé Christine. Et là, il se rend compte qu'il se trompe. Qu'en fait, cette fameuse Marie-Hélène Lacroix, c'est pas la bonne Marie-Hélène Lacroix du livre d'Écarlate. Mmh. Donc, il n'en saura pas plus. Et donc, des mois plus tard, il va faire appel à une spécialiste. Alors ça, c'est là où on voit le désespoir de l'enquêteur.
Ouais, ouais.
Et en même temps, le fait qu'il est complètement habité, obsédé par cette histoire, il va en fait contacter une certaine Brigitte. Et Brigitte, c'est une généalogiste dont on lui a dit qu'aucune recherche ne lui résistait. Donc lui, il se dit, moi, j'y arrive plus.
Ouais.
Donc je vais faire appel à cette femme. Et cette femme lui dit que ce n'est pas un problème, dit que ça marche toujours, qu'en général, elle finit par trouver. Seulement, Brigitte, elle va l'appeler plusieurs mois plus tard, désespérée en lui disant qu'elle a tout essayé, mais sans succès.
Aïe, aïe, aïe.
Elle n'y arrive pas.
Mmh.
Cette Marie-Hélène Lacroix était introuvable. Alors elle dit, peut-être qu'elle a disparu, peut-être qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de Christine, peut-être que, elle a changé de nom, qu'on ne trouve plus rien. Et puis, un jour, au moment où Pierre Boisson pense que c'est fini, que pour lui, tous ceux qui avaient été très 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 proches de Christine, qui avaient survécu, en fin de compte, soit ont disparu, soit elle ne veut plus en entendre parler et qu'il n'aura pas plus d'informations, jusqu'au jour où il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il décroche et là, il entend une voix qui lui dit « J'ai eu peur que vous ne soyez un fantôme », m'a interpellé une voix de femme avec un accent du sud de la France. Et là, c'est incroyable, c'est Véronique. Et qui est Véronique ?
Oui.
Véronique, c'est l'ancienne collègue de Christine, sa dernière grande amie avant qu'elle ne disparaisse. Et voilà ce que Pierre Boisson dit. « Mon message, laissé sur son répondeur téléphonique que j'avais cru hors d'usage, l'avait prise par surprise. Christine avait compté dans sa vie. Elle l'avait peut-être même changé pour toujours. Mais elle pensait qu'elle n'entendrait plus jamais prononcer son nom, que ce passé était mort et enterré. C'était douloureux et surtout étrange. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était en 2023 en train de parler de Christine au téléphone avec un inconnu. Au début de son appel, elle m'avait précisé qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, mais presque une heure plus tard, c'est moi qui ai dû raccrocher. Il fallait que j'aille chercher ma fille à la crèche. Et alors qu'on essayait de convenir d'une date pour se voir en personne, Véronique s'est subitement arrêtée de parler. Elle avait devant elle le cadeau qu'elle avait acheté pour le dernier anniversaire de Christine. Un petit chat en bois. Christine était morte avant qu'elle ne puisse lui offrir. Il patientait toujours sur une étagère. Donc on est près de 5 ans après la publication d'Écarlate. Hein, et on sent que Christine Pawlowska continue à vivre de façon très forte et bouleversante dans le cœur de tous les gens que Pierre Boisson croise. Et bon, évidemment, c'est encore plus fascinant. On se dit non seulement ce livre écarlate et touche au cœur et impressionnant et bouleverse les lecteurs, mais en plus, les gens qui ont eu la chance de la côtoyer de près ont tous été bouleversés, touchés. Et 50 ans après sa naissance et 30 ans après sa mort sont toujours marqués. Et cette femme va lui apprendre beaucoup de choses, Véronique. Elle va lui dire que Christine a eu deux fils, qu'il ne faut pas partir du même camp, c'est ce qu'il va nous dire Pierre Boisson, parce qu'il y a Nicolas qui a lu l'Écarlate quand il avait 20 ans, en 1992, donc il est né en 72, et il y a son autre frère plus jeune, Johan, qui refuse de le lire. Donc il y en a un qui est habité par le texte et qui ne pense qu'à ça, et il y a l'autre fils qui refuse de le lire. Et c'est intéressant parce que, du coup, Pierre Boisson va aller à l'encontre de ces deux, va rencontrer ces deux fils. Et quand Écarlate va arriver sur nos tables, quand je vais l'ouvrir, je vais voir qu'effectivement, entre autres, elle le dédie à Nicolas, puisque Johan n'est pas encore né à ce moment-là. Oui.
Est-ce que, là, on arrive à... Peut-être on pourrait faire...
Oui, on peut lire un extrait.
On retrouve Mélie qu'on avait perdue.
Oui, hein, tout à fait.
Voilà. Donc, c'est son ami d'enfance, enfin, son amour d'enfance. En fait,
c'est son grand coup de cœur. À 12 ans, ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous allez découvrir par la suite hein, et comprendre, c'est que Christine Pawlowska, elle est, c'est une petite fille, après une adolescente très intelligente, qui adore lire et qui est la poésie l'habite déjà et elle est entière, mais elle est tellement entière que quand elle croise elle est solitaire, quand elle croise Mélie, elle voit en elle une âme sœur.
Voilà. Alors, ce que nous faisons dans ta maison, ce ne sont que des choses banales. Nous buvons du thé dans des chopes à bière, nous mangeons des haricots verts, nous faisons la vaisselle. Mais en même temps, nous nous saoulons d'un vin de délice, nous nous rassasions de nous-mêmes, nous flottons, nous survolons tout. Nous sommes deux fillettes qui lavent des assiettes dans l'eau grasse d'un évier et nous sommes deux déesses qui passent sur leur char de feu. Nous sommes immortelles. C'est toi qui l'as dit. Tu m'emmènes dans la chambre de tes parents, là où dort ton piano fermé. Tu le réveilles pour moi, tu joues une valse de Chopin, la valse que j'aime. Moi, je m'assieds sur le tapis, je ferme les yeux et je colle mon oreille au bois lisse et froid qui me renvoie la beauté née de tes doigts. Tu joues très vite, très bien. Et moi, je ne me méfie pas, je me laisse envoûter. Mais toi, tu le fais exprès. Tu sais que la musique m'ensanglante le cœur et me prend au ventre. Tu n'ignores pas comment elle me soulève et incendie ma tête, comment l'angoisse se lève en moi, l'angoisse de ne pouvoir la contenir, cette beauté échevelée. Tu pressens mon exultation et ma joie douloureuse, mes hurlements muets et le merveilleux éclatement de la musique jusqu'au fond de mes entrailles. Tu sais que je vais pleurer. Tu le fais exprès. Je suis vaincu. Je pleure. Alors, seulement tu t'arrêtes, pendant que je digère cette apothéose. Tu viens t'asseoir à côté de moi, tu me caresses les cheveux, tu peux bien être douce à présent que tu m'as brisé. Je vais te dire mon secret, ça ferait rire tout le monde, mais toi tu ne riras pas. Je joue ces valses parce que je l'aime. Je l'aime, je te le jure, presque autant que je t'aime. Non, je ne rirai pas. Je n'objecterai même pas qu'il est mort depuis plus de 100 ans. J'admets tout. Tu aimes Chopin et je te comprends. Et je te vois sublime dans ta passion. Ce n'est pas ridicule et même à présent, après des années, je ne trouve pas cela ridicule. Je me suis trop souvent évadé du vide des jours par la petite porte de la folie pour rire de ton amour anachronique et naïf. Tu aimes Chopin, c'est très bien. À moi non plus, rien ne me suffit et il faut que je déborde jusque dans d'autres dimensions. Je ne te réponds pas. Du bout des doigts, j'effleure le piano. Tu m'as comprise à ton tour. Plus tard, nous sortons. Voilà, c'est peut-être...
C'est beau.
Hein, mmh. On écoute un peu de Chopin?
Oui.
Thank you.
label, on est de retour.
Oui, alors on continue. Je m'étais arrêtée sur la découverte de ses deux fils, donc Nicolas et Johan. Mmh. Et alors, Pierre Boisson va contacter Nicolas, qui va lui raconter que lui, il a découvert le livre de sa mère quand il avait donc 20 ans, mais que ce n'est pas sa mère qui lui a donné. En fait, Christine Pavloka n'a jamais dit qu'elle avait écrit ce livre-là. En tout cas, elle ne voulait pas forcément que son fils le lise. Et c'est Ginette, la grand-mère de Nicolas, qui va le lui donner parce qu'il est en train de passer un moment difficile à 20 ans, un peu sombre, et lui donne le livre de sa mère. En lui disant, bah tiens, lis ça. Et quand il lit Écarlate, le choc, il est énorme pour lui. Il se sent compris, il se sent aimé, il sent que cette mère, elle est étonnante. Donc quand Pierre Boisson arrive à Perpignan pour le rencontrer, il le voit un homme qui a 52 ans à ce moment-là, qui est encore fragile, complètement ému, qui a les mains qui tremblent, qui a du mal à garder son émotion. Et il lui présente son fils, parce qu'il lui-même a un fils qui s'appelle Adam, qui est aussi un jeune ado. Et il lui dit qu'il conserve tous les exemplaires de sa mère. Qu'il conserve tous les exemplaires de sa mère, qu'il écume toutes les librairies d'occasion aussi. Donc le même procédé que les autres. C'est-à-dire tous ces gens, tous ces lecteurs qui sont habités par ce texte et qui cherchent absolument à posséder plusieurs exemplaires parce qu'ils ont peur que ça disparaisse à nouveau. Comme un trésor, en fait. Et donc, il lui montre des caisses entières de livres, d'exemplaires d'Écarlate, qu'il a par plusieurs exemplaires dans plusieurs caisses. Et à ce moment-là, il y a un geste assez magnifique de cette scène-là. C'est que Pierre Boisson nous dit qu'il demande à Adam, le fils de Nicolas, s'il a lu le livre donc, de sa grand-mère, Écarlate. Et il dit non, papa n'a jamais voulu. Et le père, pris comme ça sur le vif, lui tend un exemplaire et dit tiens, prends-le. Donc, c'est encore le petit-fils de Christine Pavloka, encore un homme qui va se saisir de ce texte-là. Non, mais c'est incroyable. Par la suite, il va rencontrer Johan. Et alors Johan, c'est le plus jeune. Et lui, il a tout à fait un autre rapport vis-à-vis de la mère. Vous allez voir, le texte est traversé de ces deux hommes, de Nicolas et de Johan, qui sont deux fils qui sont habités par cette mère et déchirés. C'est extraordinaire parce que tout au long de l'enquête, on va rencontrer encore d'autres personnages qui vont être totalement habités. Et à un moment donné, suite à cette rencontre avec Nicolas, si mes souvenirs sont bons, Pierre Boisson va recontacter de nouveau Alexandre Filon qui lui dit « il faut absolument qu'on se voit ». Il lui donne rendez-vous à nouveau en Bretagne, donc à un autre endroit de la Bretagne. Et il lui dit « Bienvenue dans la bande ». Cette fameuse bande où à un moment donné, on a un collectif de gens qui vont mettre en place tout ce qu'ils peuvent pour qu'un livre réapparaisse à nouveau sur la table des libraires. Ce qui est merveilleux, c'est que Pierre Boisson va avoir la chance de tomber sur, grâce à Véronique, donc la meilleure amie, la collègue, l'amie des derniers moments, un film qui a été tourné lors d'un anniversaire où on voit dans ce film Christine qui est là en train de fumer une cigarette et qui regarde l'objectif. Oh, cette scène, elle est magnifique. Et à l'intérieur, vous avez une photo qui est la photo, une des dernières photos de Christine. Donc vous avez une première photo d'elle quand elle avait 16 ans et une dernière photo d'elle juste avant qu'elle décède, avant ses 46 ans. Et commence alors pour, il a plein d'éléments là maintenant, et commence pour Pierre Boisson le livre « Flamme, volcan, tempête ». Et il ne va pas écrire sur Écarlate, il va écrire sur Christine Kujawa. Et Christine Kujawa, eh bien, c'est le nom de Christine Pavloska, c'est un nom polonais. Vous allez découvrir que ça ressemble, que ça signifie le vent, la tempête, qu'en fait dans son journal... Un jour, elle dit que j'aurais voulu être flamme, volcan, tempête. Et c'est ce titre-là qu'il va prendre pour son livre. Vous verrez aussi tout au long du livre qu'elle va parler des êtres qu'elle va croiser. Elle va rencontrer un grand amour qui va être aussi sa perte. Elle va vouloir faire des tentatives d'écriture. Elle écrit toujours de la poésie. Elle a écrit un autre manuscrit. Qu'est devenu cet autre manuscrit? Celui qui a la clé, c'est son deuxième fils, Johan. Celui qui a conservé ses poèmes, c'est aussi Nicolas. À un moment donné, dans le livre, c'est merveilleux parce que Pierre Boisson va pouvoir tenir les poèmes et l'écriture, les petits carnets où écrivait de sa main Christine Pavlovska, c'est extraordinaire. Et puis on va découvrir aussi comment de cette écrivaine, Christine Pavlovska, qui était Christine Jukova, qui était cette femme, ces deux êtres qui n'en sont qu'une évidemment, qui elles sont et comment se fait-il qu'elle ait disparu de la scène littéraire comme ça subitement alors que tout était là pour qu'elle soit reconnue comme et qu'elle ait le même destin, on peut le supposer, l'espérer, que Annie Ernaux. Tout ça n'a pas lieu, mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir non seulement cette enquête mais d'avoir Écarlate. Alors je vous invite mais vivement à venir découvrir tout ça à la librairie.
Eh oui, eh bien Annabelle, merci pour ton enthousiasme que je partage. C'est encore une de tes découvertes. Hein. Tu m'emmènes toujours dans des endroits où je n'aurais pas l'habitude d'aller. Enfin, je fréquente pas souvent.
Merci.
Et que tu en sois remercié. Voilà. Merci les amis. À la prochaine pour un autre coup de cœur. Portez-vous bien.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit semantel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il a touché ma joue, dans ma main il a glissé son cou. C'est alors je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour regagner. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de départ, surgit un aigle.
Coche les cœurs en battement de temps, où s'échappe le vent, où s'échappe le vent. Là où s'épuise la route des âmes qui doutent, là où se dessine l'ombre des échines, où les chemins s'entassent, où s'ouvrent les impasses. Là où fondent les secondes, où les toits se confondent, où la lune rougit lorsque tu lui souris, où se poussent les rêves, où les gouttes de pluie deviennent aquarelles, et c'est que tu me suis. Là où on se prend les pieds dans des rêves en pelote, où la main de la nuit nous glisse dans sa poche, où il ne reste plus que nos cœurs qui clignotent. Là où les étoiles tachent nos bouilles de gosse, où les boules de suie se changent en carrosse, où les chassent en amour, jusqu'à ce que le jour perce le premier nuage et dépose en visage une larme gouttière au parfum d'eau de mer pour caresser ta joue, tracer le souvenir d'une nuit qui se fout du meilleur et du pire.